Professeur Armand Abécassis, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand privilège, un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir à Radio Judaïka. Alors, dites-nous, quelle est la raison première de votre venue à Strasbourg? Et puis, nous parlerons des grands thèmes de votre pensée qui sont couronnés par des prix. Nous parlerons aussi de ce livre qui vient de sortir, coécrit avec votre fille Eliette Abécassis, et qui s'appelle « Le livre des passeurs », qui paraît aux éditions Robert Laffont. Alors déjà, votre venue ici.
Oui, mais pour deux raisons. Il y a une première raison, c'est l'amitié qui me lie à l'organisateur, Armand Pariente, et qui m'a demandé de venir intervenir ce soir sur le film « D'Oshpizine », qui fait partie de la semaine du cinéma israélien. Alors, je pense que tout ce qui se fait pour Israël, et surtout la manière dont c'est fait ici, par Armand, je ne pouvais pas dire non, même si la fin de l'année me bouscule énormément. Mais il y a pas des devoirs d'amitié, mais des plaisirs d'amitié.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot succinct de ce festival Shalom Europa qui a démarré le 20 juin, qui se poursuit jusqu'au 27 juin?
Oui, ben, il a pour but, je pense, en premier but, de faire connaître, non pas d'une manière générale, il est fait pour cela aussi, le cinéma israélien, montrer comment le cinéma israélien est très riche. Et il balaye énormément de domaines. On n'imagine pas que ce petit pays, qui n'existe que depuis 60 ans, ait des metteurs en scène, des acteurs, des actrices extraordinaires, et vraiment bien initiés et bien formés. Je ne sais pas exactement quelles sont les écoles de cinéma ou de théâtre en Israël, je ne suis pas compétent là-dessus, mais d'après les films qu'on voit à Paris ou ici à Strasbourg et ailleurs, partout où s'organise un cinéma, une semaine ou quelques jours du cinéma israélien, ou même en Israël quand j'y vais. Mais on est vraiment émerveillé qu'en 60 ans, mais ce n'est pas le seul domaine où ce pays brille, quelles que soient les critiques qu'on peut lui faire d'autre part, mais qu'en 60 ans, le cinéma israélien puisse arriver à ce niveau d'être parfois, depuis 2-3 ans, nominé au Festival de Cannes et avoir certains prix.
Ce qui est étonnant, et puis donc ça entre en phase avec le coup de projecteur sur la littérature israélienne au Salon du Livre. Et puis à Strasbourg, nous avons reçu des auteurs absolument exceptionnels qui ont montré la qualité démocratique, inventive, créative, novatrice de la littérature israélienne. Donc de nouveau, recoup de chapeau, et c'est un plaisir pour nous.
Oui, je les ai rencontrés d'ailleurs. Il y avait 39 invités. 39 auteurs israéliens, tous excellents, chacun dans son domaine propre, mais il faut les lire véritablement, pas simplement voir, se contenter de ce qu'on voit dans les critiques et les biographies à leurs propos, mais c'est une littérature très 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 en avance sur des problèmes. C'est vrai que l'Israélien installé aujourd'hui en 60 ans en Israël, il a 3500 ans de mémoire, donc il dépasse dans sa mémoire la plupart des peuples de la littérature. C'est vrai que la littérature biblique, talmudique, etc., au moins générale aujourd'hui, est merveilleuse. Et ce qui m'a désolé, c'est que ces 39 auteurs israéliens étaient tous d'accord. Parce que j'ai fait quelques tables rondes avec eux, on m'a invité à Paris, à Strasbourg, à Toulouse, pas à Strasbourg, à Bordeaux et à Toulouse, et ils sont vraiment très attachants. Ils ne sont pas religieux, mais ils ont des qualités humaines extraordinaires. Est-ce que je peux me dire que je voudrais bien trouver certains religieux, pourquoi pas, et c'est très important. Et ce qui m'a encore désolé, c'est que les 39... était pour la création d'un État palestinien. Et les Arabes, les Palestiniens, et les pays arabes d'ailleurs, qui ont boycotté, avaient l'occasion rêvée de les rencontrer pour installer un dialogue formidable avec eux. Ils les ont ratés.
Je les ai reçus pour mon émission, donc Strasbourg Pilote Littérature, et ils ont parlé tout à fait dans ce sens. Et ce qui était pour moi très très important, c'est de montrer que cette littérature israélienne est une littérature entre guillemets occidentale, démocratique, donc ouverte au progrès et ouverte sur l'universalisme et le monde.
Oui, bien sûr, j'ai fait l'une de ces grandes table ronde que j'ai faite, par exemple, à Bordeaux, avec Appelfeld, qui est un homme merveilleux, d'une profondeur, et qui se plaint, c'est pourquoi j'ai fait allusion tout à l'heure, qui se plaint de son enfance, alors quand on sait qu'il a vécu dans la forêt très jeune, qu'il a beaucoup souffert, qu'il a été recueilli par une prostituée. Il a mis du temps à s'apercevoir que c'était une prostituée, puis il est parti. Il dit, je voyais les juifs qui se cachaient, etc. Pendant cette période inhumaine, et prier, il dit qu'il les a suppliés plusieurs fois de lui apprendre à prier parce qu'il avait besoin de prier. Et ils ont refusé, il lui disait, mêle-toi de ce qui te regarde.
Il est temps maintenant, professeur Armand Abécassis, de parler de vous. Vous êtes professeur émérite de philosophie générale et comparée à l'université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Vos écrits témoignent d'un dialogue très, très intense entre judaïsme et christianisme. Vous avez remporté le prix prestigieux Prix de l'Académie des sciences morales et politiques pour votre œuvre « La pensée juive » en 4 volumes. Et vous avez écrit de nombreux livres édités chez Albin Michel, chez Robert Laffont, mais chaque fois, ce sont des textes très référencés, très doctes, qui ont mûri. Je pense qu'il vous faut du temps pour décanter tout ce savoir et en faire une langue littéraire.
Oui. Bien sûr, oui. Et puis, je balaye un grand champ de recherche, mais tout centré, même pour ma philosophie, qui était mon enseignement, tout centré sur les problèmes posés par la mémoire juive, la tradition juive, la communauté juive, ce qu'on appelle le judaïsme en général. Et il est dommage qu'on ne puisse pas retenir ces intellectuels admirables. Aujourd'hui, on ne les connaît pas, qui défendent Israël, qui défendent le peuple juif, qui ne sont pas religieux. Il faut se poser la question de savoir pourquoi, comme Bergson, Freud et Einstein, etc., qui nous ont précédés, pourquoi ils ne mettaient pas le pied à la synagogue? Personne ne se pose cette question. C'est sûrement pas de leur faute. C'était des savants, c'était des romanciers, c'était des gens très intelligents. Mais pourquoi ils n'ont pas trouvé comment se raccrocher sur le plan de la mémoire et de la spiritualité, bien qu'ils n'aient jamais renié leur origine, et ils l'affirment, mais pas comme on aurait voulu, de manière spirituelle, morale. C'est que donc dans la communauté juive, il y a un problème de transmission sur lequel les rabbins devraient réfléchir très sérieusement, et sur lequel maintenant je suis sûr que le nouveau grand rabbin de France va y réfléchir, parce que je le connais très bien depuis 35 ans, c'est un grand ami, et qu'il va apporter un certain nombre de changements à l'intérieur de l'organisation de la transmission juive, particulièrement par rapport à l'école rabbinique. Je ne sais pas s'il sera aidé, mais il faudra qu'il le fasse.
Donc, travail sur la mémoire juive, et notamment, donc, je vais parler de ce livre, nous allons parler ensemble de ce livre, le livre des passeurs, c'est un livre qui est une anthologie de textes juifs qui convoquent donc depuis les textes sacrés jusqu'aux textes modernes, en passant par la poésie, le roman. Alors, première question, donc ce livre a été coécrit avec votre fille Eliette Abécassis, pardon, et qui paraît aux éditions Robert Laffont. Alors, comment avez-vous pu opérer un choix et quels étaient les critères de sélection terminaux, puisque au-delà d'une certaine frontière, ce n'est plus juif. Vous avez même parlé donc d'auteurs qui sont très très dissous dans l'univers juif. Proust, Montaigne, Bergson.
Oui, Marx. Oui, on les a mis dans la partie hors texte. Parce qu'ils sont juifs, ils ne sont pas juifs, ils sont reliés aux juifs. On les a mis hors texte. Ça veut dire que donc, nous avons un critère. Et il faut rappeler d'abord que ce livre n'est pas né de nous, ou de moi, ou d'Ediette, ou d'Ediette et de moi, mais c'est l'éditeur lui-même qui l'a demandé depuis plusieurs années. Il a pensé que la seule manière de faire connaître, même rapidement comme on le fait, à propos simplement d'un ou deux textes, présentés, commentés, et puis aussi avec des éléments de biographie de l'auteur, et sa visée essentielle. Il faut savoir que l'éditeur a dit qu'il faut qu'on connaisse ce champ de la mémoire juive pendant au moins 2-3 000 ans. Et il faudrait que vous l'écriviez. Et puis il avait dit, il s'était adressé à Eliette. Et c'est Eliette qui s'est adressé à moi en me disant, l'auteur Robert Laffont donc voudrait que nous écrivions ce livre. Alors il a pris 3 ans et demi de recherche et un travail très très absorbant, parce qu'il y a eu un premier critère, n'est-ce pas? On peut faire ce reproche, il est parfaitement valable, mais justifié, n'est-ce pas? Et surtout, la production du livre est également justifiée et répond d'une certaine manière à l'objection. Et comment parcourir 35 siècles? Comment le résumer en 300-400 pages? Impossible. Alors qu'on ne nous demande pas, pose pas la question pourquoi cet auteur est absent et pourquoi cet auteur est absent. Bien que pour certains auteurs, il faut accepter la discussion. Mais on ne pouvait pas tout dire, c'est impossible. On ne pouvait pas écrire toute la Torah, tout le monde peut l'acheter traduite ou en hébreu dans les librairies. Mais on a choisi certains textes caractéristiques et c'est le premier critère. On a dû lire énormément, vous imaginez combien.
Et traduire.
Et traduire, et commenter, et pour d'abord choisir ce qu'on appelle les Écritures Saintes. Il a fallu choisir les textes les plus fondamentaux, d'une manière générale, qui répondent à des problèmes actuels et éternels. Que veut dire créer le monde? Que veut dire révéler? Que veut dire, et puis que veut dire les 10 commandements? Que veut dire? Bon, ce sont des textes très importants. Le travail a été facile. Le travail a été facile, nous sommes entendus. Alors que c'était moi qu'Eliette avait demandé de, puisque je suis dedans, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dedans, elle. Alors qu'inversement, pour tout ce qui est la littérature moderne, c'est elle qui choisissait l'auteur et le texte. Et puis nous discutions ensemble sur l'auteur d'abord, et puis sur le texte pour justifier. Parfois elle a changé, parfois j'ai changé aussi, à partir de moi, à partir d'elle. Alors ça, c'est le gros du travail, choisir les auteurs, c'est important. Et alors là, nous avons rencontré un grand problème, choisir les auteurs, et puis une fois qu'on a choisi les auteurs, choisir les textes dans l'auteur. Quel est le texte de Agnon, quel est le texte de Potok, quel est le texte d'Hermann, quel est le texte des hors-textes de Bergson qu'on doit choisir. Alors là, la discussion a été encore plus longue parce que Eliette avait ses choix et moi j'avais mes choix. Mais bien sûr, entre un père et une fille, le compromis est très 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 rapidement fait. Et il faut dire aussi que Eliette et moi n'avons pas participé tout seuls, particulièrement pour la littérature américaine. Janine, mon épouse, sa mère, a beaucoup, beaucoup travaillé, choisi et discuté avec nous, puisqu'elle a fait aussi, en dehors de ses études en psychologie, elle a fait aussi des études universitaires d'anglais. Mais Solange aussi, vous savez de quoi je parle. Vous y êtes passé aussi à l'université sur ce plan-là. Et puis, ça c'est... maintenant qu'on avait les textes, on avait les auteurs d'abord, et on avait les textes, alors il fallait savoir comment les organiser. Et on a été tenté de le faire, mais on a tout de suite réfléchi que non, séparer la religion de la laïcité. Et puis on a décidé que c'était un très mauvais choix et qu'il y a des juifs laïcs qui ont participé à la mémoire juive, même s'ils n'inspectaient pas les lois. Même s'ils n'étaient pas croyants, ils s'y trouvent, qui ont participé à la construction de la mémoire juive de manière extraordinaire, aussi valable que celle des religieux. Mmh. Alors on a écarté ce critère. Et ça se passe aujourd'hui. Je pense qu'un Dayan, qu'un Begin, bon, Begin était religieux, mais tous ceux qui sont occupés depuis 48 de l'existence d'Israël et qui sont morts pour Israël, et ou qui ont les enfants qui sont morts pour Israël, qui n'étaient pas religieux, ils ont fait un kiddush Hashem. Ils ont participé à la construction du peuple juif. Dans tous ces domaines, religieux ou non religieux, politique, économique, l'essentiel pour nous, c'est prendre les auteurs et les textes principaux, bien sûr, qui ont apporté quelque chose au peuple juif. Et c'est cela que nous avons choisi. On aurait pu choisir d'autres. Et on le dit dans notre introduction, le choix est subjectif. Et on dit même, on a écrit, et c'est Eliette qui a écrit cette phrase-là dans l'introduction, on sait bien qu'on peut faire un autre livre avec tous les auteurs qu'on a oubliés, même des tas d'autres livres. Bon, c'est pas une critique qu'il faut nous faire, parce qu'il était impossible de mettre tous les auteurs, et d'ailleurs c'est inutile, on n'avait qu'à simplement courir après les auteurs, et puis les lire, voilà. Nous avons voulu donner le désir de lire ces auteurs, et nous avons surtout donné l'idée de cette unité du peuple juif au-delà du laïc et du religieux. Parce qu'il y a un peuple qui doit traverser l'histoire, religieux ou laïque, L'essentiel, c'est d'avoir participé à la mémoire de ce peuple.
Alors, je voudrais déjà dire un mot sur Eliette Abécassis, normalienne, agrégée de philosophie, auteure d'une trilogie romanesque brillante qui a été traduite dans le monde entier. Oui. Alors, c'est Qumran, le trésor du temple, la dernière tribu, et puis La répudiée, Le clandestin, Un heureux événement. Ce sont des livres qui font l'actualité. Eliette est à sa place dans la littérature française, vraiment de façon prestigieuse. Alors moi je voulais aussi que vous nous disiez quel est selon vous, vous qui avez tant écrit, tant étudié, tant réfléchi dans plusieurs langues puisque vous êtes aussi certifié de langue sémitique, quel est le noyau dur de cette identité juive ? Finalement la chose la plus compressée, la plus essentielle.
C'est la question sur laquelle nous terminons dans la conclusion. Qu'est-ce qui reste ? C'est la conclusion. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on peut mettre un Einstein ou des gens qui sont en dehors, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui aussi, ou des auteurs israéliens ou américains, qui sont, comme Philippe Roth d'ailleurs, on peut nous faire le reproche, oui. C'est vrai ? Qu'est-ce qui fait que nous les avons considérés comme...
Freud qui sape un petit peu aussi.
Oui, bien sûr. Marx. Mais comment Marx et Freud, qui sont les grandes critiques de la religion, avec Nietzsche, les trois grandes critiques de la religion en général, dans le monde occidental, c'est Freud, Marx et Nietzsche. Enfin, toutes les critiques se rattachent à ces trois formes de critiques. Nietzsche qui dit, bon, c'est la force de la vie qui travaille en nous, et donc il faut la dépasser, etc. Bon, je ne faire une leçon de philosophie ici, c'est pas le lieu ni le moment. Et puis aussi Marx qui dit, bon, c'est la société. Voilà. Et puis Freud qui dit, c'est l'inconscient. Et ce sont trois critiques très, très incisives et malheureusement très profondes et qui correspondent à la réalité pour la plupart des religieux. Il n'y a pas de doute. Le problème, est-ce que c'est cela véritablement le judaïsme ou la religion en général, que ce soit musulmane ou chrétienne ? Alors, nous avons posé la question une fois que nous avons lu, surtout pendant après 3 ans et demi de travail presque quotidien, jour et nuit. Alors, qu'est-ce qui reste ? Pourquoi on considère que Philippe Roth est quand même un juif qu'il a apporté ? Pourquoi même les hors-textes qu'on a mis Bergson-Marx, quand même, même si les parents de Marx se sont convertis, mais pourquoi Bergson, sur son lit de mort, il a eu le prêtre qui s'est présenté à lui en pleine guerre, il est mort, et qui, étant donné la philosophie de Bergson, elle était absolument chrétienne, totalement chrétienne, surtout avec l'écrit dans son livre « Les deux sources de la morale et de la religion », qui considère le judaïsme comme de nouveau, et comme toujours chez l'Église, la religion de la loi stricte, de la fermeture sur soi, de ceux qui veulent garder Dieu pour tout seul, etc. Alors que le christianisme, il a ouvert l'universel, pas tout ça, c'est des poncifs absolument dépassés, complètement absurdes. Eh bien, Bergson a eu quand même la noblesse de lui dire « Mon père, s'il n'est pas question de me donner l'extrême attention, je reste avec le peuple et solidaire surtout au moment où il souffre. » C'est quand même extraordinaire. Bien qu'on puisse dire, s'il n'y avait pas la guerre, est-ce que Bergson serait converti ? Mais peu importe. Mais il y a quelque chose de juif dans Bergson. Il y a quelque chose d'extraordinairement juif dans Proust. Et pourtant... Proust, qu'est-ce qu'il a de judaïsme et de juif, hein ? Il y a quelque chose de profondément juif dans Montaigne. Et alors le problème, c'est quoi ? C'est quoi ? Ce qui reste ? C'est très difficile à saisir, sinon d'une manière négative. Je veux dire, de ne pas dire ce qu'est véritablement ce reste-là, mais ce qu'il vise, comment il est animé, comment il est dynamisé de l'intérieur de l'homme. C'est ce refus de se laisser absorber par quoi que ce soit. C'est cette soif de l'absolu, contrairement aux religions en général et très souvent dans le judaïsme également, cet absolu avec lequel on ne peut pas vivre, c'est impossible, on ne peut pas ne pas vivre, et on ne peut pas vivre non plus parce qu'on l'atteindra jamais. Il y a une exigence absolue, et c'est ce que dit Dieu à Moïse, quand Moïse lui dit « Maintenant, fais-moi ce cadeau avant de mourir, montre-toi à moi ». Et Dieu lui répond ce merveilleux verset, l'homme ne peut pas me voir et rester homme. Quoi, tu veux te faire Dieu ? L'homme ne peut pas vivre sans rapport à l'absolu. Pourquoi nous marions ? Pourquoi nous écrivons ? Pourquoi vous peignez ? Pourquoi vous grattez ? Pourquoi vous faites ces émissions ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a en vous de juif véritablement et qui devrait être universalisé ? À la manière dont le judaïsme donne réponse. Cette exigence, elle existe à tout être humain. Nous représentons l'humain comme tous les peuples représentent l'humain, parce qu'il n'y a pas d'homme qui puisse vivre sans exigence d'absolu et d'infini. Mais les Juifs disent, interdiction de parler de cet absolu et d'infini. Contente-toi simplement de répondre dans le lieu où tu es, de telle manière que jamais ta réponse ne comble ton exigence d'infini. Inassimilé, parce que nous sommes inassimilables. C'est ça ce reste que nous avons pu percevoir dans tout ce qui est écrit, le religieux ou pas religieux, israélien ou en dehors d'Israël.
Il y a aussi dans votre écriture qui est très, très brillante et puis qui ne passe sur aucune, sur aucun reproche qu'on pourrait faire. Donc vous avez une écriture courageuse. Vous faites des distinctions qui sont très, très essentielles, par exemple entre hébraïsme et judaïsme, oui. Il y a aussi des distinctions qui sont de rapprochement comme entre psychanalyse, oui, et judaïsme. Sûr, et ça, c'est, oui, très passionnant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot?
Oui, mais est-ce que le judaïsme, je sais que je vais choquer certains religieux, est-ce que l'histoire, depuis la Torah, c'est-à-dire l'histoire de l'hébraïsme, je vais revenir sur cette différence, c'est l'histoire du judaïsme, l'histoire des kabbalistes, l'histoire des décisionnaires, l'histoire du judaïsme, d'une manière générale. Est-ce qu'elle s'est passée à un moment sans rapport avec les cultures générales où nous sommes? Rachid, c'est un juif, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est le grand maître, mais c'est un Français. C'est un Français, il vivait en culture française, c'est par rapport à la culture française et encore au Moyen-Âge chrétienne, et Dieu sait ce que tout le monde sait, ce que les juifs souffraient sous dans la religion chrétienne. C'est extraordinaire. On a emprunté aux nations, on leur a donné, c'est sûr, mais on a emprunté. Le juif ne peut pas se fermer dans un ghetto, et le juif non plus ne peut pas être assimilé et oublier sa mémoire. Nous avons un pied là et un pied de l'autre côté. Et notre travail de juif, c'est faire le dialogue entre la culture générale, on l'appelle chokhma, la sagesse, et la Torah. Nous avons besoin de construire à chaque génération, dans la famille même, et à chaque génération, ce dialogue entre la Torah et la chokhma, pour montrer que la Torah ne peut pas se passer de la chokhma. Si j'attrape tout à l'heure un mal de ventre, c'est pas un talmudiste ou un rabbin que je vais aller voir, ça c'est clair. Mais si je veux débarquer dans la lune, c'est pas au Talmud que je vais le demander. Et j'ai besoin de débarquer dans la lune à condition que ce soit pas pour bombarder, mais pour la paix du monde, ça c'est clair. Mais d'autre part, il faut que la chokhma sache qu'elle est limitée et que la Torah apporte un univers auquel la chokhma ne peut pas répondre. Et sur le plan de la chokhma, par rapport à la Torah, c'est la chokhma qui gagnera toujours. Je veux dire, sur le plan de la science, qui cherche la vérité du monde, c'est toujours la science qui battra toujours la Torah et qui aura raison contre la Torah. Parce que c'est la science qui me dit ce qu'est le monde, comment une pierre tombe, comment on s'échappe de la force terrestre pour aller au désastre, pour aller dans la Lune ou aller peut-être un jour dans Mars, j'espère le plus tôt possible, pour le bien de l'humanité. Ça, c'est clair. Mais sur le plan du sens et de la signification, et de la question fondamentale du sens de ma vie, du sens de la destinée, si la vie vaut la peine d'être vécue ou pas, si je dois respecter mes parents, si je dois respecter l'autre, si je dois aimer ma femme, être fidèle à ma femme, à mes enfants, ça la science ne peut rien me dire, parce que ça relève du monde de la signification que je donne à ma destinée. Et la question pour nous, c'est comment faire le dialogue entre l'exigence de vérité et l'exigence du sens. Ça, c'est notre problème. Et ça se fabrique à chaque génération. C'est pourquoi on a tant de commentaires. On devrait s'arrêter à un seul commentaire de la Torah. Mais non, c'est que l'homme s'installe dans le monde chaque fois d'une manière différente. Et qu'il faut qu'il trouve dans ce monde un juif, une communauté juive, un rabbin, un maître spirituel représentant le judaïsme de manière la plus noble et la plus respectable et respectueuse, qu'il puisse répondre à la problématique et aux défis qui nous sont lancés, comme aujourd'hui le sida ou je ne sais pas, de tous les problèmes, les crises économiques. Il faut que nous soyons capables de répondre à la question et de dire pourquoi nous voulons rester juifs? Parce que nous avons encore des choses à dire à la crise dans laquelle nous sommes. Être juif, ce n'est pas simplement dire ce que Rashi a dit, Rabbi Akiba a dit. Bien sûr, c'est important. Mais ce que dit Rabbi Akiba, quel sens ça a pour moi aujourd'hui, pour que je puisse continuer à en témoigner? C'est toute l'éducation juive, et la transmission du judaïsme qu'il faut absolument changer à l'école rabbinique ou dans les écoles juives. Les directeurs des écoles juives devaient réfléchir à ce problème. Comment le juif qui sort de l'école, même s'il ne va pas être pratiquant absolument comme ils le veulent, mais il reste à l'intérieur du peuple juif. Il va apporter au peuple juif quelque chose parce qu'il sait que le peuple juif a quelque chose encore à dire et toujours au monde.
Monsieur le professeur Armand Abécassi, je vous remercie infiniment d'avoir éclairé pour nous tous ces pans de la mémoire juive, de la transmission, de l'interprétation qui fait sens. Tout ce sont des éléments essentiels dans votre travail, ce travail qui emplit votre vie, l'anime, et puis vous œuvrez dans la transmission, vous êtes vous-même un passeur. Donc j'en profite pour citer ce livre qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont, coécrit avec votre fille Eliette Abécassis, le livre des passeurs, de la Bible à Philippe Roth, 3000 ans de littérature juive. Merci beaucoup.
Moi aussi, merci Solange pour la joie et l'honneur de cette demi-heure.
Merci infiniment. À très bientôt.
Très bientôt.